Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bonsoir et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Une résolution du Parlement européen demande au Burkina Faso de réviser le statut des forces spéciales qui leur accordent l'immunité lors de leur lutte contre le terrorisme. Alors, thème d'à votre avis aujourd'hui, faut-il accorder une immunité aux forces luttant contre le terrorisme ? Dans le cas contre, découragés par les risques de poursuites judiciaires en rapport avec leur action sur le terrain. Si vous souhaitez participer à cette émission, appelez-nous tout de suite pour en débattre en direct. Vous nous laissez au 001 202 205 26 33 ou le plus 1 si vous nous appelez avec un téléphone portable. Plus 1 202 205 26 33 et bien sûr, on vous rappelle. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos réactions et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et notamment, nous avons Mohamed Bakayoko de Bamako. Pour lui, les militaires burkinabés, donc si c'est le cas du Burkina bien sûr, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, pas plus, pas moins. Pour Eddy Michel Kazadi Katung, il y a des règles d'engagement lorsqu'on mène une guerre, mais pour des raisons d'efficacité, les troupes engagées dans les opérations antiterroristes ne devraient pas être soumises à trop de restrictions. Donc pour Eddy Michel Kazadi Katung, il faut certaines restrictions, mais pas trop. Pour Issa Abdoulaye Garikoya d'Arbinda au Burkina Faso, à son avis, ceux qui sont formés, ces forces spéciales, elles doivent être indépendantes sur le terrain et parce que, selon lui, bien sûr, elles sont formées pour cela. Et pour Zakaria Rayo Diakoulibaly de Bamako, attention, il faut faire attention, Damiba ne peut faire des grosses erreurs, dit-il, il doit être prudent. Donc lui, il invite à la prudence concernant ce thème. Alors, comme je disais, vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos commentaires, mais aussi vos coordonnées pour participer en direct à ce débat. Et c'est le cas de Théodore Tchézoumé. Bonsoir.
À vous, bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. Alors, pour vous, il ne devrait pas y avoir d'immunité si les forces venues aider à lutter contre ces exactions. Alors là, on parlait des militaires présents, pas forcément de militaires étrangers, de militaires des pays qui luttent contre le terrorisme. Pour vous, c'est simple, si elles viennent à commettre des exactions, évidemment contre la population civile, elles doivent en répondre. C'est bien ça.
Exactement. C'est ce que je pense. Je pense que les militaires sont dans leur devoir de défendre la patrie, mais en face, c'est également des humains. Et une immunité dans le cadre des conflits, pour moi, ça peut être un droit à un laisser-aller, un droit à on fait ce qu'on veut au nom de la guerre. Pour moi, on ne doit pas donner un tel laisser-passer, même dans le cadre d'un conflit. C'est certes une guerre, il y aura des pertes en vie humaine. Mais chaque partie doit savoir qu'en cas de dérapage, chacun doit pouvoir répondre de ce qu'il fait. Et qui sort du cadre du combat. S'il y a des bandits, par exemple, il en arrive tout le temps, qui en répond? Il faut que ce soit l'armée nationale ou une armée qui vienne en appui, qu'on ne parle pas d'immunité et que les gens puissent répondre de leurs actes. Au-delà de ce qui concerne les conflits, je sais qu'ils risquent leur vie. Mais pour moi, on ne devrait pas accorder le laisser aller sur ce point.
Oui, parce qu'il y a eu évidemment plusieurs fois des erreurs, parfois des règlements de compte. Bien sûr, c'est très compliqué dans des cas de lutte contre le terrorisme de toujours. Donc pour vous, l'armée doit être d'une certaine façon montrer une certaine exemplarité.
Exactement. Pour moi, c'est très important que les hommes en armes sachent qu'ils doivent être exemplaires à tout point de vue, même dans le combat. il n'est pas question, parce qu'on a un laissé aller, d'aller de faire ce qu'on veut, sous prétexte, qu'on tue les ennemis à tout prix. Non, pas du tout. Quel que soit le cas, on doit savoir que si l'on dérape, on répond de ses actes devant les juridictions compétentes. Et ça, chacun doit l'avoir à l'esprit et pouvoir faire le bon combat sur le terrain. C'est ce que je pense.
Merci beaucoup, Théodore Tchézoumé. Vous écoutez donc VOA Afrique depuis Abomey Calavi au Bénin. Depuis le Mali, à présent, nous avons Daouda Diékilé avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Très bien, et vous-même?
Oui, ça va bien, merci.
Alors vous, hein, bien sûr, vous êtes au Mali, un pays qui lutte contre le terrorisme au quotidien. Pour vous, la lutte contre le terrorisme est une lutte complexe. Alors, est-ce que pour vous, il faut avoir, est-ce que les forces spéciales doivent avoir une immunité ou est-ce plus compliqué que ça? Et d'ailleurs, au Mali, comment ça se passe? Est-ce que vous savez si les forces bénéficient d'une sorte d'une protection?
Personnellement, je n'ai pas cette information-là. Si les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'elles bénéficient d'une immunité sur le terrain. Voilà. Mais ce que je retiens le plus, c'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme est une lutte très complexe. Voilà, donc les acteurs vraiment qui sont chargés de mener cette lutte, à savoir les forces de l'ordre, doivent bénéficier d'une liberté, c'est-à-dire que dans leur mode opératoire. Parce que les militaires, c'est des gens vraiment qui sont formés et ils ont pour vocation de protéger les civils. Donc, les terroristes étant des gens vraiment qui opèrent sans état d'âme sur le terrain, et donc quand on voit les exactions des enfants, des femmes enceintes qui sont tuées, et par des terroristes, c'est que par la suite, on met des restrictions concernant, c'est-à-dire que le mode opératoire, c'est-à-dire des forces de l'ordre sur le terrain, ça va non seulement les décourager dans leur lutte, et puis ça va aussi les freiner, c'est-à-dire que dans la mise en œuvre de toutes leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Voilà, donc je pense que si nous essayons vraiment de voir les choses de façon très synthétique, on peut dire qu'il faut que, c'est-à-dire que les acteurs, c'est-à-dire les forces de l'ordre, doivent avoir la main libre sur le terrain, vraiment pour pouvoir mener efficacement cette lutte contre le terrorisme et venir au bout de ces djihadistes-là, qui sont éparpillés de part et d'autre. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation et notamment d'accusation parfois de certains groupes de prêter main forte aux terroristes alors que ce n'est pas toujours le cas?
Non, c'est pas ces risques-là, parce que les risques sont à écarter. Parce que les forces de l'ordre sont en réalité en cohabitation avec les civils. Ouais, donc, et leur vocation, c'est de nous protéger, nous, les civils. Voilà, donc, et s'il y a vraiment c'est-à-dire que de l'insécurité, s'il y a des gens vraiment qui se lèvent pour mener le djihadisme, et mener la terreur maintenant autour des populations, donc il va vraiment falloir qu'il y ait des gens qui sont prêts à répondre efficacement de ces crimes, de ces agressions-là que les djihadistes sont amenés à commettre. Voilà. Donc nous devons voir, c'est-à-dire que la chose de façon plus claire et de façon plus logique. Voilà, les forces de l'ordre n'ont pas vocation vraiment à commettre des agressions. Certes, en menant leur lutte, il peut vraiment y avoir, c'est-à-dire que des erreurs d'opération ou autre chose qui peut vraiment faire en sorte que les missions-là ne se déroulent pas de la manière dont on le souhaite. Et ça, ce n'est le vœu de personne ni des forces de l'ordre. Mais les aléas font que la lutte étant une lutte très complexe, qu'il y ait ces erreurs-là, donc qui ne sont pas vraiment volontaires. Et cela ne doit pas être, c'est-à-dire qu'un facteur, c'est-à-dire que pour mener des enquêtes et des choses-là, pour vraiment les décourager dans cette lutte-là, vraiment, qui est très, très difficile et très complexe, il faut le reconnaître.
Merci beaucoup, Monsieur Diékilé. Vous êtes donc au Mali. Depuis Parakou, au Bénin, Depuis Parakou, au Bénin, nous avons Monsieur Djossou à présent. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, madame.
Bonsoir et merci de votre participation à votre avis. Alors pour vous, vous nous avez écrit à preuve du contraire. Je ne pense pas que le Burkina Faso est un pays d'Europe. Alors, tout à fait.
Oui.
Pour vous, vous étiez un petit peu finalement choqué que le Parlement européen se mêle des comme vous écrivez, hein, se mêle des affaires du Burkina Faso. Alors. C'est une résolution du Parlement européen et il s'agit un petit peu d'un conseil, si vous voulez. L'Europe n'a pas de prise par rapport au Burkina. Mais pour vous, il n'aurait pas dû s'exprimer, c'est ça?
Non, au plus d'abord, madame, j'aimerais vous demander de me laisser rendre hommage à notre écrivain Jean-Jacques Rousseau, et que je vais citer l'une de ses citations, qui dit que tant qu'un pays est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le junc et qu'il le secoue, il fait encore mieux, car recouvrant sa liberté par le même droit qu'il a lu à ravir, où il est fondé à la retendre, on ne le tait point à lui opter. C'est pour dire quoi? Ce qui se passe au Burkina devrait concerner uniquement les Burkinabés. Parce que ce sont les Burkinabés qui ont élu leur président et qui ont décidé aussi de le faire passer.
Alors, justement, il ne semble pas que les Burkinabés aient élu leur président, comme vous le. Il s'agit plus d'un coup d'État que d'une élection.
Que ça soit la manière, pour le moment, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la sécurité du Burkina. Le Parlement européen était là quand la population de Burkina Faso subissait les assauts des djihadistes, non? Mais on ne les a pas entendus. C'est quand on attend que peut-être la population se lève et prend sa responsabilité.
Alors, c'est pareil. Vous dites qu'ils ne sont pas, qu'on ne les a pas entendus. Ils ont envoyé quand même une force militaire. Ils ont envoyé des soldats. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'on ne les a pas entendus.
On ne les a pas entendus? Si on les avait entendus, est-ce qu'on serait en train de compter le nombre de morts qu'il y a eu dans le passé? Ils ont pu faire quoi? Et cette injection qui donne chaque fois, surtout dans les pays africains, c'est ça qui énerve, c'est tout. C'est une injection. Et ce n'est pas démocratique. On ne peut pas dire qu'on est un pays démocratique, qu'on contrôle la démocratie. Elles sont jetées dans des affaires qui ne les concernent pas. Qui ne les concernent pas, c'est tout. Hein. On n'est pas contre l'Europe.
Donc voilà, donc monsieur Diouzou, merci beaucoup, on a compris. Hein, pour vous, ça ne concerne pas le Parlement européen. Direction Kinshasa à présent, nous avons Christian Politazi. Bonsoir.
Bonsoir Claire et bonsoir aux auditeurs de la Vie Afrique.
Alors j'aime beaucoup votre commentaire parce qu'il arrive parfaitement après Monsieur Diouzou. Vous dites cette question d'immunité est une question très sensible. On a pu l'entendre effectivement. Dites-nous, vous, quel est votre point de vue?
Évidemment, Claire, mon résumé, la sensibilité de cette question en fait, dans le sens que, par exemple, ici, en RDC, déjà pour lever les immunités parlementaires, nous voyons comment est-ce que la justice souffre. Alors, je me dis, la question s'avérait maintenant pour les immunités en temps de guerre ou les immunités militaires, comment cela va se passer. Et donc, étant donné que le contexte également du Burkina Faso est un contexte vraiment très particulier, c'est vrai, le pays se retrouve aujourd'hui où le pays est en proie à des attaques terroristes. Mais seulement, il faudrait d'autres tactiques pour chercher à concerter à vaincre, n'est-ce pas, cette gangrène. Donc, pour nous, nous disons que vraiment, il faudrait chercher des voies et moyens pour éviter que les militaires qui seront au front, s'ils ne soient pas victimes de dépressifs judiciaires intempestives. Donc, voilà pourquoi il faudrait donner des immunités. Il faudrait que ces immunités soient beaucoup plus. Ne concernent pas les actes qui vont dans le sens d'encourager les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, etc., etc. C'est de cette manière que nous pouvons sécuriser ou encore faire en sorte que les soldats qui seront au front soient compétents envers tous les actes qu'ils produiront. Sinon, au contraire, si nous donnons les humilités aux militaires d'une manière générale, eh bien, il y aura des exactions que les militaires vont commettre et finir ça. Personne ne sera responsable. Or, la mission première de ces unités ou l'effectif, c'est justement de restaurer les priorités de l'État. Je veux dire, je vois par là, restaurer la paix, mais aussi de ne pas favoriser, en d'autres termes, ou encourager les actes criminels, mais encore l'impunité. Si l'on accorde les unités d'une manière aveuglée, eh bien, nous allons encourager l'impunité, nous allons encourager la résilience même des comportements, je dirais, beaucoup plus criminels. Et donc, il faut ici voir la guerre et l'après-guerre et pour ne pas protéger la population, mais aussi l'avenir de tout un peuple qui est en Eurasie.
Merci beaucoup, Christian Politazzi. Vous écoutez VOA Afrique depuis Kinshasa en RDC.
À votre avis sur VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute d'Ava, à votre avis sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de l'immunité des forces spéciales qui luttent contre le terrorisme au Burkina Faso. Alors, une résolution du Parlement européen demande au Burkina de réviser le statut de ces forces spéciales qui leur accordent une immunité lors de la lutte contre le terrorisme. Alors, ça nous a permis de poser cette question dans vos pays par rapport aux forces qui luttent contre le terrorisme, faut-il leur accorder une immunité ou, dans le cas contraire, est-ce que ces forces vont-elles être découragées par les risques de poursuites judiciaires en rapport avec leurs actions sur le terrain? Si vous souhaitez participer, appelez-nous tout de suite pour en débattre en direct. Vous nous laissez vos coordonnées au +1 202 205 26 33 et bien sûr, on vous rappelle. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, très nombreux à nous avoir laissé vos commentaires, vos coordonnées, vos impressions, notamment Moussa Zoundi de Ouagadougou. Lui, il dit, mais où est le problème à croire que certains veulent défendre leurs amis terroristes? Vous ne pouvez pas aimer le Burkina plus que les Burkinabés. Et puis pour Monsieur Koulibaly de Bamako, il faut faire attention aux troupes et ne pas laisser trop de liberté. Voilà. Alors, pour Aboubakar Bangoura, il nous écoute depuis la Guinée-Conakry. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, madame.
Alors, vous, c'est pas évidemment pas tout à fait le cas en Guinée-Conakry, mais si c'était le cas, est-ce que vous pensez que les militaires guinéens devraient avoir une immunité dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme?
Bien sûr, mais chez nous, c'est le contraire, parce que depuis notre indépendance, lorsque la France nous a abandonné, la Russie nous a viré en aide. Jusqu'à présent, on ne connaît pas le problème de terroristes là, de quoi, ça. Nous, on est stable ici. Mais au Burkina Faso, l'Assemblée européenne doit laisser l'affaire des Africains gérer leurs problèmes. S'ils veulent gérer leurs problèmes là, ils vont lancer une autre partie à Poutine là-bas. Parce qu'ils sont en train de gérer l'affaire de l'Ukraine. Et là, quand vous laissez leur assemblée là, est-ce que. Ils ont consulté l'Union africaine, où il y a la CEDEAO. Personne. Ils ont communiqué. Nous sommes indépendants. Si c'est pas l'Union américaine, c'est pas l'Union, ils n'ont qu'à partir à Amérique, là, au Moscou, là-bas. Parce que le président Poutine est en train de les trembler.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Bangoura. Vous, là aussi, il faut laisser les Burkinabés gérer ça. Nous avons maintenant Alpha Monzimbouyou depuis la RDC. Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir, merci madame.
Alors, que pensez-vous de ça? Est-ce que les militaires burkinabés doivent bénéficier d'une immunité, que ce soit évidemment à leurs politiciens de changer ça? Et c'est d'ailleurs la question de cette résolution. Est-ce que vous pensez que ce statut doit changer ou est-ce que au contraire, les militaires qui luttent contre le terrorisme doivent bénéficier de l'immunité et donc d'une certaine impunité?
En tout cas, comme je l'ai dit auparavant, pensez vraiment à revoir ou bien à réviser ces statuts. Je pense que c'est une manière d'encourager le mal, disons. Voilà, parce que quelqu'un qui milite pour plutôt contre l'insécurité ou bien le terrorisme ne peut pas quand même avoir le temps de réclamer ses soi-disant des immunités, non. Parce que lui, il est là, il connaît très bien sa mission qui lui a fait qu'il se retrouve sur les champs de bataille ou bien donc au front. Alors, tous ceux-là qui sont en train de chercher par tous les moyens qu'on peut se réviser ces statuts-là concernant les immunités. Donc, à mon humble avis, je crois que c'est une manière donc d'encourager les mâles. Donc, ça leur permettra maintenant de faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est une manière peut-être pour eux de pouvoir se venger sur tout ce qui s'est passé contre et plutôt sur le champ de bataille.
Très bien, merci Alpha Monzi. Donc pour vous, ça peut encourager de mauvais côtés. Pour nous, nous avons Ousmane Mouamadou depuis le Niger qui nous a appelé. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Bonsoir et merci de votre participation. Merci. Alors, faut-il accorder une immunité donc aux forces? Vous par exemple, l'armée du Niger qui lutte contre le terrorisme dans plusieurs parties du pays, est-ce que vous savez d'abord s'ils ont une sorte d'immunité comme ça ou si ce n'est pas le cas chez vous?
Bon, avant d'entamer votre question, moi, je remercie toute l'armée nigérienne d'abord et je remercie le président de la République du Niger aussi. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, si c'est ce qui concerne l'Afrique aussi, je remercie toutes les armées africaines là, surtout les autres armées qui luttent contre le terrorisme. Maintenant, compte tenu de votre question, l'immunité des soldats au niveau du Burkina, là, en tout cas pour moi, c'est trop. J'aimerais que même s'ils font ça, il faut qu'ils s'assurent avec les militaires frontaliers, surtout le Bénin, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire, et le Mali aussi. Voilà. Parce que pour moi, ce que je vois, en tout cas, c'est une bonne idée, mais c'est trop, quoi. Selon moi. C'est beaucoup.
L'immunité, c'est trop. D'accord. C'est beaucoup, donc, vous rejoignez un auditeur qui nous disait qu'il faut certaines restrictions, mais pas trop non plus pour leur laisser une liberté de mouvement. Merci, monsieur Ousmane Mouamadou. Pour finir, nous avons Jim Rangar, Théadoum, depuis le Tchad. Bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Bonsoir. Alors vous également, les militaires tchadiens luttent contre le terrorisme et pas seulement sur le territoire national. Est-ce que vous savez s'ils bénéficient d'une immunité dans votre pays?
Moi je crois que cela n'existe pas, même si ça existe peut-être dans la police. Sinon, je crois que si ces choses existent, c'est une façon d'entraver la justice. Et vous savez, par exemple, les militaires italiens sont trop désordonnés. Donc, si on les accorde encore une immunité, ça serait du n'importe quoi. Je crois qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas blanchir les personnes qui ont tort, les personnes qui ont commis un crime ou ont agi dehors la loi. Donc, moi, je crois que ce n'est pas bien si la personne a tort, là-dessus, de le frapper. Et s'il faut bien aussi, tant mieux, mais dire que ces militaires doivent bénéficier à une immunité, donc je crois que ça va créer des désordres, ils vont faire de n'importe quoi. Et ça ne serait pas bien. Donc, il faut laisser la justice faire normalement son travail. Si la personne a tort, il a tort. Et là, la justice va s'en charger. Mais dire que non, on les blanchit, je crois que cela va à l'encontre de la démocratie. Et donc, je crois que, à mon avis, je ne suis pas d'accord du point de vue qu'on accorde cette immunité au ministère de l'Ordre de la lutte contre le terrorisme, je crois que ce n'est pas bien.
Eh bien, ce sera les mots de la fin. Voilà, l'immunité pour vous, c'est entraver la justice et ça va à l'encontre de la démocratie. Merci, Monsieur Jim Rangar, Théodoum Ozana. C'est déjà la fin d'À votre avis. Un grand merci à Nick Ivanov qui était à la console, à Fatouma Kalala Alimassi qui était à la réalisation, Claire Morin-Gibault était au micro. Rendez-vous sur Facebook où la discussion continue. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute.